Et voici venu le moment d'approfondir nos connaissances, l'occasion de nourrir nos idées, le temps du plaisir d'apprendre, c'est l'heure de l'éloge du savoir. Christine Goémé, bonjour à tous. Aujourd'hui, les cours du Collège de France. Roger Chartier, titulaire de la chaire écrit et culture dans l'Europe moderne, racontait hier matin dans son cours qu'on avait trouvé, dans le registre du trésorier de la chambre du roi d'Angleterre, en date du 20 mai 1613, la mention du versement de la somme de 93 livres, 6 shillings et 8 pence à la troupe des Kingsmen pour des représentations dont celle d'une pièce intitulée « Cardenau ». La même troupe reçut le 9 juillet 1613 la somme de 6 livres, 13 shillings et 4 pence pour la représentation devant le duc de Savoie, hôte du souverain anglais, d'une pièce intitulée « Cardenau ». Roger Chartier profitait de cette occasion pour rappeler le statut de la troupe des comédiens du roi, à la fois groom, c'est-à-dire domestique, et assez indépendant néanmoins pour entrer en concurrence avec les autres théâtres. Mais c'est bien entendu à la pièce « Cardenio », récit d'un amour tragicomique extrait du Don Quichotte de la Manche et dont le texte a disparu, qu'il s'est intéressé dans ce cours qui traite des rencontres textuelles entre Cervantes et Shakespeare. Car en effet, bien que contemporain et mort le même mois de la même année, en avril 1616, les deux génies de la littérature mondiale ne se sont jamais rencontrés. Si les Anglais cultivés qui parlaient l'espagnol avaient lu et tenaient en bonne place dans leur bibliothèque le best-seller de Cervantes, qui fut un succès foudroyant dès sa publication en 1604, le titre donné pour sa traduction anglaise, la première publiée en Europe, celle de Thomas Shelton en 1612, l'histoire du valeureux et amusant chevalier errant Don Quichotte de la Manche, montre bien qu'on connaissait déjà largement le personnage et quelques-uns de ses exploits avant même la parution de cette traduction. Roger Chartier s'est intéressé aux aspects matériels de cette publication. À l'éditeur, Edward Blunt, connu pour son remarquable catalogue étranger, qui avait par exemple fait traduire par Floriot les Essais de Montaigne, mais il nous a surtout parlé de Thomas Shelton, ce catholique irlandais dont le père mourut en prison et dont le frère fut pendu pour avoir combattu les rois protestants. Thomas Shelton, lui, avait vécu en Espagne et en Flandre, puis avait enseigné chez les jésuites à Douai. Roger Chartier insistait sur le mépris dans lequel était tenu le fait de traduire, qui était au fond considéré à l'époque comme une façon de copier un texte dans une autre langue. Thomas Shelton avait d'ailleurs commencé par se désintéresser de sa traduction du roman de Cervantes, qu'il n'avait faite que pour faire plaisir à quelques-uns de ses amis. Ce matin, Roger Chartier poursuit son enquête sur Cardenio en examinant un deuxième document important. Écoutez.
Un deuxième document qui est un document qui va renforcer la relation entre Cervantes et Shakespeare. Jusqu'à maintenant, Cervantes, oui, mais une pièce sans auteur. Ce document n'est plus un document de la comptabilité royale comme le précédent, mais est ce que l'on appelle une entry, un enregistrement, dans le registre de la communauté des libraires et imprimeurs de Londres, la Stationer's Company. Ils avaient gardé le vieux mot de stationnaire, qui était le nom des libraires à l'âge du manuscrit, mais la Stationer's Company est la corporation, la communauté qui rassemble libraires et imprimeurs, et qui enregistre ce qui, jusqu'au début du XVIIIe siècle, s'appelle « writing copy », c'est-à-dire qu'un libraire ou un imprimeur qui possède un manuscrit et qui veut le publier, le dépose à la Stationer's Company, le fait enregistrer comme sa propriété, ce qui normalement empêche ses confrères de imprimer, de faire imprimer, de publier le même texte. Et c'est donc ces registres de, et l'expression était to enter, entrer, enregistrer un titre avec un texte dans la Stationer's Company. Et le 9 septembre 1653, vous voyez, nous sommes 40 ans après les représentations à la cour de ce Cardenio, sans auteur, un des libraires de Londres, Humphrey Moseley, fait enregistrer comme sa propriété, protégé par un writing copy. Le mot copyright apparaîtra pour la première fois en 1704 dans les registres. Il fait enregistrer 41 pièces qui correspondent à 42 titres. Et parmi ces 41 titres de pièces, l'une est ainsi énoncée: The History of Cardenio, virgule, by Master Fletcher, point, and, et le and est comme on le faisait à l'époque sous la forme de l'esperluette, comme and company, and Shakespeare. Et pour la totalité de ces enregistrements, il doit payer, puisque ce n'était pas gratuit, frais d'enregistrement et de secrétariat, 20 shillings et 6 pence, avec les deux parties d'une pièce qui s'appelle Henri Ier, enregistrée comme une seule pièce, ce qui faisait donc 6 pence pour chacun des titres. Et c'est un document évidemment de tout à fait commun, ordinaire, il y en a des dizaines d'enregistrements, mais c'est un document précieux pour notre quête, puisque c'est peut-être l'unique témoignage du XVIIe siècle écrit qui associe Cervantes à travers Cardenio et Shakespeare comme supposé co-auteur de cette pièce enregistrée comme The History of Cardenio. Alors j'avais consacré il y a quelques années un livre à ce sujet, Cardenio entre Cervantes et Shakespeare. Je ne reprends pas évidemment le livre que tout le monde peut lire, mais j'ai, comme depuis ce moment-là, beaucoup de travaux, de discussions, de recherches se sont développés autour de ce thème, évidemment, qui ne peut que fasciner une pièce attribuée à Shakespeare qui serait la mise en théâtre du Don Quichotte de Cervantes. Il y a une fascination puissante qui s'est exercée, on pourra en le réévoquer, mais qui s'était exercée sur des auteurs de fiction, qui imaginait un peu, comme on l'a vu, sans Cardenio, le texte de Burgess, mais il y a des romanciers anglais ou américains qui se sont emparés de cette idée du manuscrit de Shakespeare mettant en scène le Don Quichotte, l'intrigue de Cardenio, ou peut-être aussi même les aventures de Don Quichotte. Ça a été une fascination pour les metteurs en scène. Il y a plusieurs solutions pour représenter une pièce qui n'existe pas, mais ce serait pour une autre partie du cours. Et ça a fasciné, évidemment, les chercheurs pour essayer de percer ce mystère de cette pièce qui associe, dans cette entrée du registre de septembre 1653, les deux plus grands auteurs construits comme tels du XVIIe siècle. Et c'est donc sur la base de ces travaux, recherches, nouvelles, que j'ai fait retour à ce dossier, puisque, évidemment, pour notre dossier de 1616, les morts presque simultanées de Shakespeare et Cervantes, c'est un élément essentiel. D'abord, un premier mot sur qui est le libraire-éditeur qui enregistre cette pièce. Humphrey Moseley était un libraire et pas un imprimeur, ce qui fait que lorsque l'on est libraire-éditeur, on commande et on paye à un imprimeur l'impression des volumes et ensuite le libraire se charge de leur vente. Il était un membre de la Stationer's Company depuis 1627, et la caractéristique importante, c'est qu'il avait un très profond engagement royaliste pendant la guerre civile ou pendant la Révolution anglaise, donc contre le Parlement, et d'un autre côté, que c'était un éditeur qui a en quelque sorte inventé la littérature anglaise, comme dit un des critiques, David Scott Castan. Il a publié à la fois des recueils poétiques, quelques romans et des pièces de théâtre. Et évidemment, la publication de pièces de théâtre dans le contexte de la Révolution anglaise, qui depuis 1642 a fermé les théâtres, était un geste à la fois littéraire, mais aussi un geste politique. Et à partir de 1645, Mosley développe une politique systématique d'édition pour des poètes ou des dramaturges contemporains de son temps et publie une série de volumes qui ont la même forme, in quarto pour les pièces séparées, in octavo pour les recueils de poésie ou des pièces rassemblées, avec un portrait d'auteur définissant en quelque sorte un corpus de la littérature anglaise contemporaine. C'est pour ça que ce rôle lui a été attribué par certains critiques littéraires. Et dans ce corpus, c'est évidemment une attention particulière pour les pièces de théâtre, puisque c'était une forme de protestation, en quelque sorte, contre la fermeture des théâtres. Les pièces étaient données à lire alors qu'elles ne pouvaient plus être jouées. La reprise ne sera qu'en 1660, à la fin de la Révolution. Donc il y a une longue période entre 1642 et 1660 où le théâtre devient un genre imprimé et non plus une pratique de spectacle. Des signes de cet engagement de Mosley pour la publication du théâtre, on en a plusieurs. En 1646, il avait fait enregistrer un certain nombre de pièces, 30 pièces de Beaumont et Fletcher, 4 de Davenant, 5 de Shirley et 3 ou 4 d'autres auteurs. Ça représentait la même chose, c'est-à-dire un enregistrement important d'un nombre de titres. Puisque là, il avait fait enregistrer 43 titres de pièces dans le même enregistrement. Plus important, en 1647, il a publié le troisième folio dramatique du XVIIe siècle anglais, si l'on pense que les deux premiers sont les works de Ben Jonson, publiés en 1616, dans lesquels Ben Jonson lui-même avait rassemblé un certain nombre de ses pièces, un certain nombre de ses poésies et un certain nombre de ses masques, ses divertissements donnés à la cour dans un format folio, ce qui avait d'ailleurs été un choc ou un scandale, puisque le format folio, c'était le format des autorités de l'Antiquité, ou des docteurs de l'Église, éventuellement d'un poète comme Spenser ou des œuvres du roi Jacques Ier. Donc, pour un genre si secondaire comme le théâtre, lui donner cette forme noble, grandiose de l'imprimerie était considéré comme un geste d'une certaine arrogance. Premier folio, 1616. Le deuxième, sur lequel je reviendrai sans doute la fois prochaine, 1623. Le folio des œuvres de Shakespeare, décidé, voulu par deux de ses anciens camarades de théâtre, Hemings et Condell, et qui là, après la mort en 1616, donc posthume, rassemblait les Comedies, Histories and Tragedies de Shakespeare. 36 pièces mises ensemble. Le troisième folio, c'est celui de Mosley de 1647 pour les œuvres de Beaumont et Fletcher. 35 pièces, et 35 pièces, comme le dit le titre, qui n'avaient jamais été imprimées auparavant et qui sont maintenant publiées en suivant les copies originales des auteurs. Never printed before, are now published by the author's original copies. Original copies est toujours un texte, un argument de vente, comme si on référait au manuscrit autographe, ce qui était, c'était déjà sur la page de titre du folio de Shakespeare, 1623, true and original copies. En fait, les copies qui servaient étaient d'origine extrêmement diverse. Copies au propre des manuscrits d'auteurs, livres de régie, prompt books utilisés pour les représentations, copies manuscrites des prompt books, parfois reconstruction du texte à partir d'une mémoire et d'une prise du texte durant les représentations. Donc, une variété, mais la force d'autorité était donnée par l'emploi des original copies. Et donc, une publication de ce folio. Et en 1653, les 41 pièces et 42 titres que nous avons rencontrés, et parmi elles « The History of Cardenio by Master Fletcher and Shakespeare », et en 1660 encore d'autres pièces. Donc, une première mise en garde, effectivement, il ne faut pas attribuer une importance particulière à la présence de cette pièce attribuée à Shakespeare et d'abord à Fletcher dans ce document de 1653. C'est rétrospectivement parce que Shakespeare est Shakespeare et que fascine ce lien possible avec Cervantes que l'on a isolé et porté une attention intense à cette mention dans ce document. C'est donc un effet de construction a posteriori. Pour Mosley, cette ligne entrait, comme vous le voyez, dans des enregistrements, des propriétés sur des dizaines et des dizaines de pièces qu'il avait récupérées et dont il voulait ou pensait ou pouvait donner des éditions. Pendant la période de la Révolution anglaise. Donc, il n'y a pas une importance particulière, mais évidemment, pour nous, l'importance, elle vient de « By Master Fletcher and Shakespeare », sur la plausibilité de cette attribution de ce texte à ces deux auteurs. Et là encore, ce qu'il faut se garder, une illusion rétrospective, elle est très importante puisque nous vivons avec elle, c'est-à-dire la force, la puissance de la référence à Shakespeare. Dans le moment du XVIIe siècle, il est sans aucun doute que Fletcher était plus important que Shakespeare. Fletcher était l'auteur qui avait été réédité, le dramaturge réédité pendant la Révolution, 1647, avec Beaumont et leur collaboration, mais la plupart des pièces dans ce folio de 1647 sont de Fletcher, ou du moins ils se présentent comme donnant une priorité, une primauté à Fletcher. Et après 1660, l'auteur qui domine la scène anglaise, pour les reprises, lorsque les théâtres sont rouverts et que deux compagnies ont l'autorisation de jouer des pièces, puisant dans le répertoire d'avant la Révolution, celle de Davenant et celle de Killigrew, le répertoire fondamental est celui donné par les pièces de Fletcher et Beaumont. Shakespeare, en 1653, est un auteur évidemment présent, mais d'une part, il n'y a pas eu de réédition de l'ensemble de ses œuvres depuis 1632, qui était la réédition du folio de 1623, et très peu d'acteurs avaient un souvenir des représentations des pièces d'avant la Révolution. Il y a donc clairement un déséquilibre auquel il faut penser entre cette présence forte, récente, centrale de John Fletcher et une présence plus effacée de William Shakespeare. Ce qui rend plausible l'entrée de Mosley, c'est évidemment la collaboration entre Fletcher, premier nommé, et comme je le disais, on a dans le document « By Master Fletcher » un point « and Shakespeare ». comme si finalement, d'une part, Shakespeare était nommé en second et peut-être rajouté dans cette indication. Ce qui peut donner réalité à ce que Mosley annonce comme attribution de la pièce, c'est évidemment les collaborations entre Fletcher et Shakespeare dans cette période, entre 1612 et 1614, et particulièrement dans l'année 1613. Il y a deux pièces, en dehors du Cardenio perdu, qui sont attribuées à cette collaboration. Mais quand on entre dans le détail, on voit que les choses ne sont pas immédiatement simples. La première de ces pièces avait pour titre, lorsqu'elle était représentée, « All is true », tout est vrai. Et en fait, elle a été publiée dans le folio de 1623 des œuvres de Shakespeare comme « The famous history of the life of Henry VIII », donc la fameuse histoire de la vie d'Henri VIII, qui est, dans la partie du folio, la dernière des histoires. La première étant Jean Santerre, et entre les deux, les Richard et Henri, Richard II, Richard III, Henri IV, Henri V et Henri VI. Et donc, cette pièce qui apparaît dans le folio comme la pièce vouée à Henri VIII, on sait qu'elle a été sans doute jouée sur le théâtre du Globe, à la fin du printemps de 1613. La raison de le savoir, c'est que dans l'une de ces représentations, et un témoin dit que la pièce n'avait pas été jouée plus de deux ou trois fois, donc le 29 juin 1613, un incendie a détruit le Globe lors d'une représentation de Henri VIII. Et il y a deux lettres de spectateurs, de nobles spectateurs, qui décrivent cet incendie. Donc, 29 juin 1613, on peut penser que quelques jours auparavant, la pièce avait été représentée au Globe. On peut penser aussi qu'elle a pu être composée en relation avec cet événement, c'est-à-dire le mariage d'Élisabeth, la fille de Jacques Ier, le 14 février 1613, avec le prince du Palatinat, le prince palatin, qui était un prince résolument calviniste et réformé. Et donc, du coup, peut-être que cette pièce a aussi été présente dans les représentations données avant le départ du roi de la cour en février 1613, rien ne l'assure, mais en tous les cas peut-être dans une relation, puisque si vous avez lu ou vous vous souvenez d'Henri VIII, c'est une pièce ambiguë et complexe, parce que d'un côté elle veut rétablir une sorte de continuité monarchique et religieuse entre Élisabeth Ier et le roi régnant, Jacques Ier, et en particulier, à la fin de la pièce, dans une prophétie de Cranmer, qui porte sur le règne du roi régnant, Jacques Ier, la force religieuse et politique de ce qu'a été le règne d'Élisabeth Ier. Donc il y aurait là une tendance de renforcement de la dimension protestante de la monarchie, et en même temps, la politique du roi, Jacques Ier, en 1612-13, est de rechercher un apaisement des conflits entre les confessions et de rechercher de nouveau une paix avec l'Espagne. On avait commencé ce coup avec la paix de 1604-1605, elle s'était détériorée, et donc de rétablir la paix avec l'Espagne. Donc du coup, de ne pas donner dans la pièce une importance trop démesurée à la réforme d'Henri VIII, c'est-à-dire la rupture avec la papauté et le conflit avec la catholicité. Et quand on lit la pièce, on est très frappé par le fait, on la voit, mais on la voit rarement, parce que c'est une pièce difficile à mettre en scène, et là, on est frappé par le fait que les actes fondateurs du schisme d'Angleterre ne sont qu'évoqués sans être développés. entre parenthèses, une analyse qu'on pourrait faire, c'est ce que j'avais essayé de faire ailleurs, c'était la comparaison entre, sur cette rupture avec Rome, la pièce de 613 anglaise et puis la pièce de Calderón de la Barca qui prend exactement un peu plus tard le même thème du schisme d'Angleterre. Et avec cet intérêt de voir que dans les comédias espagnoles, on ne peut pas, même pour les condamnés, faire énoncer des propos en faveur de la réforme. Ce qui fait que le paradoxe de Calderón, c'est de faire que c'est Henri VIII lui-même qui, pris de doutes ou de scrupules, critique sa propre attitude. En tous les cas, on voit une pièce qui date de 1613 et qui, jusqu'au XIXe siècle, n'entrerait pas dans ce que je suis en train de dire parce qu'elle est attribuée à Shakespeare. Elle est présente dans le folio de 1623, dont un des principes était de ne publier que des pièces dont Hemings and Condell savaient ou pensaient qu'elles avaient été écrites par le seul Shakespeare. Et donc ils ont exclu les pièces qu'ils considéraient comme des pièces écrites en collaboration. Même si certaines avaient eu un énorme succès, comme la pièce qui s'appelle Périclès, et qui, parce qu'ils supposaient ou savaient qu'elle avait été écrite à plusieurs mains, n'avait été écartée du folio de 1623. Mais la pièce est donc donnée dans la tradition ouverte par le folio comme une pièce de Shakespeare. C'est la critique du XIXe siècle qui, à partir du début du siècle, a identifié des discordances, à la fois des discordances stylistiques et des différences prosodiques. Question technique, mais d'une part, les différences prosodiques, c'est quel type de maître, quel type de vers est employé. Et on sait que des auteurs, les dramaturges anglais, pouvaient avoir des préférences, en particulier pour la fin des vers, ce que l'on appelle les terminaisons féminines, et qui sont la non-accentuation de la 13e syllabe du vers anglais, et qui peut être repéré comme plus fréquemment employé par tel ou tel des dramaturges. Les différences stylistiques sont un peu plus complexes, c'est-à-dire le fait que on peut repérer la préférence ou non pour des abréviations, you ou ye, the ou you. On peut repérer aussi ce qui est un trait particulier de l'anglais des 16e, 17e siècles, c'est-à-dire qu'à l'inverse de l'anglais contemporain, on peut fréquemment employer do dans une proposition affirmative, sans volonté d'accentuation, comme on le fait maintenant. Si vous employez do dans une affirmative, c'est parce que vous voulez accentuer la phrase. Mais là, d'une manière très normale, et inversement, on peut avoir des phrases négatives ou interrogatives sans emploi de l'auxiliaire. C'est un trait de la langue anglaise, mais tous les dramaturges ou tous les auteurs ne l'employaient pas aussi systématiquement. Et donc, du coup, on peut repérer aussi des différences. C'est un... Et puis, il y aurait des différences proprement esthétiques qui deviennent plus subjectives sur reconnaître les images, les métaphores, les formules propres à tel ou tel auteur. En tous les cas, à partir du début du XIXe siècle, la critique a été frappée par le fait qu'il y avait de grandes différences entre des scènes de Henri VIII et donc a émis l'hypothèse d'une pièce écrite en collaboration. On peut estimer que peut-être les deux tiers des pièces ont été écrites à plusieurs mains, avec, je l'évoquais pour commencer, des formes de collaboration diverses, soit que les auteurs se divisent l'un le plot, l'intrigue et l'autre les vers, soit divisent des actes, soit se répartissent des scènes, soit peuvent travailler sur les mêmes scènes et les mêmes répliques avec un travail de révision. Ça dépend un peu des conditions même de la collaboration, sans oublier que cette collaboration n'est pas nécessairement seulement synchronique, mais peut-être aussi diachronique avec les multiples révisions des pièces au cours de leur représentation. dans un journal d'un entrepreneur de théâtre qui s'appelle Henslow, qui vaut pour les années 1590-1610, on voit qu'il paye il paye tout, il paye les décors, les costumes, mais aussi les auteurs. Et dans deux tiers des cas, les pièces sont payées au moins à deux, mais souvent à trois, quatre ou cinq auteurs. Donc la pratique de la collaboration n'a rien d'étonnant. Ce qui est plus étonnant, c'est le fait que jusqu'à une date récente, on a attribué à Shakespeare moins de collaboration qu'à beaucoup d'autres auteurs, dramaturges élisabétains. Sauf dans les premières pièces, par exemple Henri VI, ou justement dans ces moments de la collaboration avec Fletcher. Et donc, de ce point de vue, Shakespeare serait un peu différent. Mais plus récemment, on a essayé de montrer que peut-être dans des pièces qui étaient pensées sans collaboration, il y avait des traces de collaboration. Et d'autre part, avec la figure de Shakespeare, ce qui se posait, c'était la question des modalités de la collaboration. Si l'on admet qu'il a passé la plus partie de son temps à Londres, dans le milieu théâtral, et donc ici une carte de immédiate proximité avec de possibles collaborateurs, ou lui-même étant collaborateur des autres, c'est notre vision qui fait que Shakespeare est si différent, peut-être pour des raisons objectives, esthétiques, dramatiques, mais pas pour des raisons historiques, mais si différent des autres. Et de l'autre côté, il y a les collaborations qui auraient pu exister lorsqu'il s'est retiré à Stratford-upon-Avon, à partir donc des années 1610, 1611, ou peut-être même, pendant la période dite londonienne, une plus grande présence à Stratford-upon-Avon, et qui supposerait là des modes de collaboration qui ne sont pas fondés immédiatement sur la proximité, l'échange, mais d'une manière de division et ensuite d'un travail réparti. Donc du coup, collaboration dans cette pièce, et pourquoi collaboration entre Shakespeare et Fletcher ? Shakespeare, puisque tout de même la pièce lui avait été attribuée tout entière dans le folio, et Fletcher parce que c'était l'auteur qui, pour les raisons stylistiques ou prosodiques, apparaissait le plus proche de ce que l'on avait détecté dans le Henri VIII. Et de là, depuis le XIXe siècle, l'idée que cette pièce est une pièce écrite en collaboration par les deux auteurs. Mais il n'y a aucun document qui le mentionne explicitement. Les difficultés, puisque ces analyses de détails peuvent avoir du sens si on les place dans un cadre un peu plus large. Les difficultés, quand on pense au terme de collaboration, elles peuvent provenir, comme je viens de le dire, de notre incertitude sur ce qui est derrière la collaboration, synchronique, diachronique, par coexistence et proximité ou par tâches séparées. Il y a donc là un premier problème, mais elles peuvent venir d'une autre grande difficulté, souvent sous-estimée par l'histoire de la littérature. C'est le fait que nous n'avons aucun manuscrit autographe pour la immense majorité de ces pièces. Et donc, l'attribution de particularités stylistiques ou graphiques, ou en particulier stylistiques graphiques orthographiques, à tel ou tel auteur, est faite sur la base des éditions imprimées. Et entre ce qu'un auteur a écrit et écrivait de préférence, et ce qui est le texte imprimé sur la page lue par les lecteurs du passé ou d'aujourd'hui, comme vous le savez, il y a une énorme série d'intermédiaires. Premièrement, la transformation, comme on dit en anglais, des full papers en fair copies, donc des papiers, du manuscrit, du brouillon autographe, en une copie propre. Et cette copie propre étant elle-même l'objet d'une part d'un travail de editing, d'établissement de la copie, au-delà de ce que le scribe qui a copié a pu faire, Et elle est d'autre part interprétée, lue par les compositeurs, les ouvriers typographes, qui composent avec les caractères mobiles le texte manuscrit qu'ils ont sous les yeux. On voit donc que l'attribution des formes graphiques ou orthographiques est disputée entre cette chaîne d'acteurs, l'auteur, le copiste, le copy-éditeur ou correcteur et le compositeur. Et la preuve de cette incertitude est le fait que soit lorsqu'on est dans le monde de la critique littéraire et de l'attribution des textes, on met entre parenthèses cette chaîne d'intermédiaires comme si l'on pouvait ou on devait lire les préférences de Fletcher ou Shakespeare directement dans les formes imprimées. Soit, si l'on est dans le monde de la bibliographie, la technique de description des objets imprimés et de leur production, on met entre parenthèses l'auteur pour considérer que ceci nous indique des préférences des compositeurs, ce qui permet de reconnaître que tel livre a eu 2, 3, 4 typographes qui ont travaillé, puisqu'on voit de manière récurrente apparaître les mêmes préférences graphiques ou orthographiques. Et je crois que jamais n'a été résolue cette tension. C'est-à-dire l'utilisation du même document, les formes graphiques et orthographiques ou de ponctuation, telles qu'on les rencontre sur les pages imprimées, soit pour des attributions auctoriales, soit pour des identifications de gestes du travail et d'ouvriers dans l'atelier. C'est donc une question ouverte, très complexe et qui entraîne une très grande tension, et ce qui explique sans doute pourquoi quand les caractères hypothétiques d'un certain nombre de conclusions, qui donc du coup permettent encore plus fortement le débat, la discussion ou la controverse, existent pour l'ensemble de cette littérature en particulier dramatique du XVIe ou XVIIe siècle anglais. Bon, restons sur les identifications philologiques qui attribuent certaines scènes ou actes de Henri VIII soit à Shakespeare, soit à Fletcher, pour considérer qu'il y a là probablement une pièce écrite en collaboration. La deuxième collaboration, elle, de manière plus rare, est annoncée. Elle se trouve sur la page de titre de la pièce qui s'appelle « The Two Noble Kinsmen », les deux nobles cousins, puisqu'elle est publiée en 1634. Sur la page de titre, « Written by the memorable worthies », les deux gloires mémorables, « of their times », de leur époque, « Master John Fletcher and Master William Shakespeare, gent », pour abréviation, pour « gentleman ». Et les deux noms sont mis l'un en dessous de l'autre, il y a une accolade, et en face de l'accolade, « gentleman ». Fletcher était noble de naissance, et comme on sait, le père de Shakespeare avait acquis titre de nobilité. Et là, on a donc une attestation typographique, sur la page de titre de 1634, qui est renforcée dans sa vraisemblance par le fait que cette pièce n'est pas dans le folio de 1623. Donc Hemings and Condell savaient que The Two Noble Kinsmen avait été écrit par Fletcher et Shakespeare, ou par Shakespeare et Fletcher. Ils l'avaient donc écarté du folio. Cette seconde pièce, qui atteste la collaboration et qui donc renforce la crédibilité de l'enregistrement de Mosley, date de l'année 1613, hésitation là encore la date plus précise, soit après le 20 février, c'est-à-dire le mariage d'Élisabeth, soit plus vraisemblablement après l'incendie du Globe, puisqu'il y a une allusion dans le prologue à our losses, à nos pertes. Et on ne sait pas très bien de quelle autre perte il pourrait être question. Et donc, du coup, si c'est une référence à l'incendie du Globe, qui a été une perte, évidemment, pour la compagnie des comédien du roi, des Kingsmen, la pièce daterait de la seconde moitié de... serait représentée dans la seconde moitié de l'année 1613 et donc écrite un peu avant. L'idée ici est que on est presque dans une situation inverse pour l'attribution, puisque au départ, on a une attribution qui est mentionnée sur la page de titre d'une édition de cette pièce, tardive évidemment, par rapport à 1619, puisque c'est 1634. Mais à certaines distances de 1653, l'entrée de Mosley. Et dans ce premier quarto de la pièce, il semble qu'il n'y ait pas de doute. Pourtant, dans le 19e, à la fin du 17e siècle, et jusqu'au milieu du 19e siècle, la pièce est désattribuée de Shakespeare et apparaît comme une pièce de Fletcher. Elle est publiée, par exemple, en 1679, dans le volume qui a pour titre 50 Comedies and Tragedies de Beaumont and Fletcher. C'est-à-dire, on avait en 1647, comme je l'ai dit, un folio des pièces non publiées auparavant de Beaumont et Fletcher. Il y a une réédition en 1679, et cette réédition incorpore aussi des pièces qui avaient été publiées avant le folio, par exemple, The Two Noble Kinsmen. Il en avait acquis les droits avant, d'ailleurs, de publier son folio de Beaumont et Fletcher, mais comme c'était une pièce qui a été publiée, il ne l'avait pas inclus en 1647. Et donc, on voit qu'une pièce qui se dit sur sa page de titre comme de Fletcher and Shakespeare devient une pièce seulement de Shakespeare. C'est à partir des années 1860 qu'on voit la pièce intégrer non plus les works de Fletcher, mais les works de Shakespeare. Le premier éditeur qui fait cela est Alexander Dyce, en 1866, dans volume 8. Et c'est très intéressant parce que lui-même avait auparavant publié la pièce dans une édition des œuvres de Beaumont et Fletcher. Alors, depuis ce moment, on admet évidemment l'idée de la collaboration, non plus l'attribution à l'un ou à l'autre, mais aux deux. Discussion, comme vous pouvez trouver dans toutes les analyses de cette pièce, pour savoir comment on peut identifier la main de l'un et la main de l'autre, peut-être le premier et le cinquième acte dû à Shakespeare, les autres à Fletcher, ou bien les distributions par scène. Ce qui est frappant dans ces débats, là encore, si on veut tirer une leçon plus générale d'une étude minutieuse, c'est le fait qu'effectivement, à partir du XIXe siècle, peut-être dès le XVIIIe siècle, il y a une obsession pour singulariser les auteurs. Et quand une œuvre est en collaboration, ou qu'on suppose en collaboration, soit on veut effacer cette collaboration, et donc du coup une attribution unique, ce qui expliquerait pourquoi on ne voulait pas croire à l'attribution de Beaumont et de Fletcher et Shakespeare pour les deux nobles cousins, soit, si l'on admet la collaboration, d'identifier minutieusement qui a écrit quoi. Et de là, comme je le disais, le développement de techniques qui se fondent sur l'esthétique, sur la stylistique et sur la matérialité du texte ou les formes de la prosodie. Ce qui a pu être renforcé, on y reviendra plus tard, dans le monde tout contemporain, par la mise en ligne des corpus de littérature ancienne. Il y a pour la littérature anglaise un corpus qui s'appelle Literature Online et qui vous permet évidemment d'établir immédiatement des parallèles entre des formules, des associations de mots, des types de phrases pour voir si elles apparaissent dans tel ou tel auteur. C'est donc une machine au service de cette idée qui est attribuer à chacun ce qui lui revient. Et l'on pourrait d'ailleurs trouver une traduction de cela dans la ponctuation, puisque c'est à partir du XVIIIe siècle que les guillemets vont indiquer ce qui est propre à un auteur et que celui qui écrit ou celui qui parle reconnaît comme la propriété de l'autre ou bien veut prendre distance par rapport à l'affirmation qui est mise entre guillemets. Mais dans les deux cas, le guillemet renvoie à l'autre. Or, ce modèle de penser la littérature avec des auteurs singuliers, des identifications de chacune des mains, une notion de propriété sur les textes, me paraît tout à fait étrange ou étrangère à l'époque des 16e, 17e siècles en Europe, dans lesquels, pour reprendre ma démonstration à l'envers, les guillemets, non fermés d'ailleurs, étaient une manière d'indiquer dans les éditions imprimées ce qui était des lieux communs, common places, c'est-à-dire ce qui appartenait à tout le monde, ce qui était des énoncés de vérité universelle, de principes généraux, et que le lecteur devait reconnaître dans le texte imprimé pour soit les mémoriser, soit les transporter dans ce qui accompagnait souvent la lecture, c'est-à-dire les cahiers de lieux communs, où sous la forme de rubriques, de thèmes, de topics, les fragments lus étaient redistribués. Pour aider cette tâche du lecteur, des éditeurs de poésie ou de théâtre ont indiqué dans l'édition imprimée, avec des guillemets ouvrant la ligne, ce qui était un lieu commun. On est donc juste l'inverse de l'idée d'une propriété littéraire, on est dans l'idée d'une sentence qui est un bien commun. Et si l'on remonte de ce détail typographique à quelque chose de plus général, c'est l'idée que la collaboration n'impliquait pas l'identification de chacune des mains, par définition. La collaboration était effacement de cette singularité individuelle. Et on pourrait, comme l'a fait dans un très beau livre, un collègue américain, Jeffrey Maston, un livre qui s'appelle Textual Intercourse, on pourrait lier cette indivisibilité dans la collaboration, qui du coup n'est pas forcément un objet d'identification. On peut éclater parce qu'on sait que la pièce a été écrite en collaboration, comme le font Hemings et Condell, un certain nombre de textes du folio de Shakespeare. Mais il n'y a pas la même obsession, sinon, évidemment, tous ces travaux de la critique du 19e siècle ou 20e siècle perdraient sens. Il n'y a pas de préoccupation pour identifier les collaborateurs avec des actes, des scènes ou des fragments de texte. Dans le registre de Hanslow, ils sont payés, mais sans, on indique pourquoi ils sont payés. Ils ont travaillé à réviser ou à produire le texte. Cette forme-là d'indivision peut, au moins dans le milieu des dramaturges anglais des 16e, 17e siècles, se référer à une notion qui a été avancée, en particulier par Jeffrey Maston, qui est la notion de homosocialité, qui ne veut pas dire forcément homosexualité, qui veut dire des compagnies, des vies ensemble d'un certain nombre de dramaturges. Beaumont et Fletcher serait un exemple, mais beaucoup d'autres, de cette forme d'une sociabilité masculine formée sur des liens à la fois de proximité, d'amitié peut-être dans certains cas d'amour, et produisant ou se traduisant par des pratiques de collaboration. On voit que la naissance de l'individu, ou ce que Benichou avait appelé le sacre de l'écrivain, une singularisation, est un phénomène moderne, est un phénomène du XVIIIe siècle. Et que des problèmes qui deviennent centraux, identifier qui a écrit quoi dans Two Noble Kinsmen, n'avaient peut-être pas de signification, en tous les cas n'attiraient pas une particulière attention dans un monde où la collaboration effaçait l'identité par rapport à un autre monde, le nôtre, dans lequel l'identité doit être trouvée dans la collaboration. Le dernier élément en fonction pour cette pièce de Two Noble Kinsmen qui frappe, qui renforce la plausibilité de ce que dit Mosley, c'est le fait qu'il y a des homologies entre Cardenio, au moins le Cardenio que nous connaissons, c'est-à-dire Don Quichotte, et d'autre part The Two Noble Kinsmen, et d'autres pièces d'ailleurs de Fletcher. C'est-à-dire l'idée très simple qu'il y a une très puissante amitié, une forme de parfaite amitié qui lie deux jeunes hommes, mais sans lier à cette parfaite amitié, comme Montaigne et la Boétie. D'un côté, Cardenio et Fernando, le fils du duc, et de l'autre côté, dans la pièce, The Two Noble Kinsmen, Arcite et Palémon. Et cette parfaite amitié est souvent exprimée dans les pièces par cette proximité, cette forte relation, parfois dans le vocabulaire de l'amour, de l'union. Et cette parfaite amitié, dans les deux cas, elle est brisée par l'amour pour la même femme, un amour soudain, immédiat, à la première vision. C'est le cas dans l'histoire de Cardenio qui est racontée par dans le Don Quichotte de Cervantes, Fernando qui a séduit une jeune femme, Dorothea, qui lui a promis le mariage et qui donc par cette promesse l'a épousée, selon la définition même sacramentelle du mariage avant le Concile de Trente. L'échange des promesses fait l'union. Et donc, du coup, elle, dans ce cas-là, Dorothea s'est donnée à Fernando, puisqu'elle considère qu'elle est unie avec lui, qu'elle est mariée avec lui. Mais Fernando, au moment où il voit la jeune fille avec laquelle Cardenio a échangé le même type de promesse et de serment, Lucinda en devient amoureux, ou tout le moins la désire, la convoite, et va demander à son au père de Lucinda sa main. Et donc on voit que là, et l'amitié se brise, de là la folie de Cardenio, sa retraite dans la Sierra Morena, la rencontre avec Don Quichotte, et la lente possibilité de restitution des couples originaux tout au long des apparitions dans le Don Quichotte des quatre personnages, Cardenio, Dorothea, Lucinda et Fernando. On a bien là cette image. Et dans la pièce The Two Noble Kinsmen, vous avez exactement la même structure d'intrigue, puisque Arcite et Palémon sont amoureux au premier regard de la même femme, Emilia, et du coup se déchire, se brise leur amitié. Chez Cervantes, tout est bien qui finit bien, puisque les couples se reforment, ce qui n'était d'ailleurs pas sans poser un problème pour quiconque voulait s'emparer de l'histoire de Cardenio pour faire une pièce de théâtre. Puisque ce qui est dans le texte de Cervantes, c'est qu'il y a deux théologies du mariage qui s'opposent. Celle préalable du Concile de Trente, dans laquelle l'échange de promesses par un homme et une femme font le mariage, sont un engagement qui a valeur sacramentelle, et donc du coup peut être considéré comme une union. Et d'autre part, la théologie du mariage du Concile de Trente qui suppose qu'il y a une cérémonie, des formules rituelles prononcées par un prêtre avec des témoins. Et dans le cas de Cervantes, les jeunes gens sont mariés deux fois. Ils sont mariés d'une part parce qu'ils ont échangé ces promesses, les deux couples, et ils sont mariés une seconde fois parce que Lucinda a été obligée d'épouser Fernando selon un rituel de l'Église catholique, présence du prêtre, bon, formule rituelle. Et donc, du coup, toute l'histoire complexe est comment faire annuler cette union entre Fernando et Lucinda pour que les couples originels se reforment. Et évidemment, c'est une difficulté à partir du moment où, au XVIIe siècle, la forme, la traditionnelle définition du mariage sur le fondement unique et puissant des échanges de promesses est effacée au profit de la cérémonie religieuse. Dans le cas de les deux nobles cousins, les choses se terminent moins bien, puisque l'un des deux meurt à la fin, ce qui est la condition de reconstituer une alliance entre l'autre cousin et Emilia. On a là donc une proximité qui laisse à penser que dans cette même année 1613, la lecture de la traduction de Shelton, mais peut-être même pour Fletcher, la connaissance bien préalable du texte de Cervantes en espagnol, ont pu inspirer ou entraîner un jeu réciproque entre ces deux intrigues, celle que l'on peut lire et voir dans Les deux nobles cousins, et celle que l'on peut supposer dans une pièce qui a pour titre Cardenio ou The History of Cardenio, c'est-à-dire la même structure. Et dans ce cas-là, comme on peut penser que la réception des deux nobles cousins pour les spectateurs ou pour les lecteurs n'était pas séparée d'un pressavoir, d'une sorte de préfiguration, s'ils avaient lu le Don Quichotte de Cervantes ou s'ils avaient vu la pièce de Cardenio. Et donc il y avait là comme un parallèle avec variation des deux intrigues, mais qui ont des traits d'analogie très très forts. Une première question, la probabilité, la possibilité, la plausibilité de l'attribution de la pièce Cervantine, The History of Cardenio, à Fletcher. Elle est forte dans la mesure où Fletcher a sans doute été le dramaturge anglais le lecteur le plus attentif, non seulement à Don Quichotte, mais aux œuvres de Cervantes. Comme je le disais, c'est le dramaturge le plus populaire du XVIIe siècle en Angleterre. C'est l'auteur qui a été le plus souvent joué à la cour entre 1619 et 1642. Il y a au moins enregistré 40 représentations de ses pièces. C'est un auteur qui a été très largement publié, non seulement dans le folio de 1647 pour les pièces qui n'avaient jamais été publiées avant, mais pour 18 pièces qui avaient été publiées auparavant, même si, évidemment, dans beaucoup de cas, ce sont des pièces attribuées à sa collaboration avec Beaumont.
C'était Éloge du savoir, le Collège de France, avec aujourd'hui Roger Chartier, titulaire de la chaire écrit et culture dans l'Europe moderne. Toutes les informations sont disponibles sur le site internet du Collège de France et vous pouvez télécharger cette émission sur le site franceculture.fr. Réalisation, Anne Sécheret. Présentation, Christine Goémé. Rendez-vous demain pour la suite du cours intitulé Cervantes et Shakespeare, rencontre. Belle journée à tous, à l'écoute de France Culture.